Les cours du Collège de France, Chimie des processus biologiques, Marc Fontcave.
C'est bon ? Là, ça marche. Hein. Je peux y aller. C'est quoi, ça ?
Ah non. C'est
ça, un petit peu mal. Ok. Allez, je vais attendre une minute. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de poursuivre avec moi cette réflexion sur l'électricité surtout. J'ai déjà commencé la semaine dernière et je vais continuer. Je fais ce détour parce que comme je crois l'avoir suffisamment expliqué, et ça va commencer la semaine prochaine quand je vais parler de la question de valoriser le CO2 pour aller vers ce qu'on appelle des carburants alternatifs ou carburants de synthèse, e-fuels, hein, tout ça c'est un peu la même chose. Une chose importante, c'est l'électricité qu'on y met, parce qu'il faut de l'électricité. Donc je reste encore un peu cette séance sur l'électricité. Voilà, je vais parler de ce qu'on appelle l'électrification des usages. Où en est-on ? Je crois que c'est une question importante parce que ça détermine au fond une partie de la politique à mener, et en discussion d'ailleurs dans les textes gouvernementaux, à mener pour un mix électrique approprié, aussi bien en diversité que en quantité. Donc on est, je crois, tout le monde, hein, d'accord, enfin, sauf s'il y a quelqu'un qui s'élève aujourd'hui contre cela, dans cette salle, mais que pour défossiliser notre système énergétique, il faut électrifier une partie des usages. Après, évidemment, assurer la production électrique qui va avec. Je pense qu'il y a parfois une erreur qui est que lorsqu'on répond à cette question, on y répond presque exclusivement par la question de l'offre électrique, de la production électrique. D'ailleurs, dès qu'on parle de la transition, on débat entre combien il faut mettre d'éolien, de solaire, de nucléaire, d'hydroélectricité, etc., etc. Et on parle relativement peu de la question de la demande électrique. Et je pense que c'est tout aussi important de se poser la question de comment on accroît cette demande électrique, et donc comment on électrifie les usages, que de réfléchir à la question de savoir comment on assure cette électricité. Ce sont deux choses différentes et qui ne se traitent pas du tout de la même façon. J'aurai l'occasion d'y revenir quand je parlerai de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et au fond, une politique énergétique équilibrée, c'est aussi une politique qui se donne comme objectif la mise en place d'outils pour augmenter cette demande électrique. Il faut qu'il y ait une demande électrique pour accompagner, évidemment, une production croissante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, ici, je ne vais pas faire de politique, mais en gros, ça demande de mobiliser les ménages et les entreprises vers le plus possible vers les systèmes électriques. Je ne dis pas comment, mais enfin, il faut mobiliser pour qu'il y ait une demande de chauffage électrique, de transport électrique, etc. Et puis en même temps, il faut aussi accompagner le tissu industriel pour que, en particulier, le secteur industriel de production des équipements électriques et des convertisseurs d'énergie électrique à un prix accessible soit aussi accompagné. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un secteur industriel qui soit compétent économiquement viable de production des pompes à chaleur, des fours électriques pour l'industrie, des voitures électriques, etc. S'il n'y a pas de demande croissante et s'il n'y a pas de secteur industriel pour produire ces objets-là, eh bien, qu'est-ce qu'on a ? On a le risque, je le dirais, d'une surproduction électrique et également l'acquisition d'objets électriques qui viennent d'ailleurs, d'où un problème de balance commerciale, un problème de perte de souveraineté industrielle. Voilà, donc j'aurai l'occasion de revenir sur ces choses-là, mais je voulais, il me semblait important de rappeler cet élément qui est parfois oublié dans le débat sur l'électricité. Alors, donc ça, vous l'avez vu à gauche, je l'ai montré plein de fois, hein, donc la transition énergétique et je vais en rester là, c'est donc cette augmentation de la consommation électrique. Et tous les scénarios prévoient cela. Évidemment, consommation électrique accompagnée par une production d'électricité qui est suffisante pour assurer cette consommation. Et évidemment, il faut que cette électricité soit bas carbone. Et c'est particulièrement approprié dans un pays comme la France, dont vous avez vu, je l'ai montré la dernière fois, dont la production électrique est très décarbonée. Ça a électrifié de nombreux usages dans un pays où l'électricité est produite à partir du carbone n'a évidemment strictement aucun intérêt. Mais bon, la France a cette particularité-là, et en effet, cette problématique que nous discutons est parfaitement appropriée. Alors, tous les scénarios sont d'accord là-dessus. J'ai donné ici des chiffres pour montrer où est-ce qu'on peut arriver dans ces scénarios, tout ce qu'on a pu imaginer. Alors, ici, ce sont des moyennes de différentes études qui ont été proposées, mais tout ça vient de scénarios de RTE, hein, les plus connus sans doute, des scénarios de l'ANEM. L'Académie des sciences et l'Académie des technologies a aussi à peu près calculé qu'on serait au-dessus de 700 TWh en 2050 si on électrifiait raisonnablement tous les usages qui peuvent être électrifiés. Il y a eu une commission d'enquête au Sénat, par exemple, je vous invite à lire cette étude, hein, 2024, qui fixe un horizon de 700... On est à 450 TWh, hein, vous l'avez vu, hein, la dernière fois, de consommation électrique, à 700 TWh, donc c'est énorme, hein, avec un passage au-dessus de 600, entre 600 et 650 TWh en 2035. Donc c'est une augmentation colossale. Ça, c'est la consommation, c'est la demande électrique. C'est comme ça qu'on prévoit cette demande électrique. Alors, les chiffres ici, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est au fond assez facile à calculer. Pour les transports, ben, vous avez, par exemple, en 2050, 30 millions ou 35 millions de véhicules électriques. Vous faites les calculs par rapport à combien de kilowattheures pour 100 km et combien de kilomètres par an, enfin, etc., etc. C'est assez facile. Bon, vous arrivez à 90 ou 100 TWh et ainsi de suite. Un peu plus d'un million de tonnes d'hydrogène vert, enfin, c'est ce qu'il y a dans ces scénarios, hein. Je ne dis pas que ceci est raisonnable. Ça fait 50-60 TWh. L'habitat, le chauffage, c'est un peu moins parce que tout ça est réfléchi en termes de à la fois électrification, pompe à chaleur et en même temps amélioration de l'efficacité énergétique, rénovation des bâtiments, enfin, etc. etc. L'industrie, donc c'est l'acier vert, c'est la chaleur électrique, c'est les e-fuels, etc. Bon, autour de 70 TWh, d'un scénario à l'autre, ça peut varier un peu. Et puis, il y a l'impact des data centers, de l'intelligence artificielle qui arrive dans le paysage. Bon, voilà, vous arrivez à peu près à ces chiffres-là, mais à 20 ou 30 TWh, c'est à peu près la même chose. Et si vous arrivez à 2035, eh ben, c'est un peu moins, c'est 18 millions de véhicules électriques. Enfin, on n'y arrivera sûrement pas, mais l'hydrogène déjà assez bien avancé, l'hydrogène vert, l'habitat, le chauffage un peu moins parce qu'on n'est qu'en 2035, l'industrie un peu moins, ça monte plus vite après, et les data centers, on y est, ça peut être à peu près ça. Bon, voilà, vous voyez, c'est à peu près ce qu'on trouve dans tous les scénarios. Voilà. Donc, horizon 2050, voilà, 280 TWh de plus, c'est colossal, et même 2035, dans 10 ans, 140 TWh de plus. C'est aussi colossal en peu de temps, mais c'est ça qu'on vise. Voilà, et donc, ici, c'est un texte de la PPE, du texte de la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc le texte, je reviendrai là-dessus hein, dans 3 semaines. Oui, comme je vous l'ai dit, les cours ne suivent pas un ordre totalement logique, mais c'est lié au fait de. C'est à cause de mes invités. Ils se sont pas mis totalement à ma disposition, donc il fallait que je m'arrange. Mais vous voyez, voilà, la politique énergétique française aujourd'hui, c'est cette affirmation, la consommation d'électricité va augmenter fortement sous l'effet de l'électrification, alors directe, ou via l'hydrogène ou les e-fuels, de nombreux usages, transport, chauffage, industrie. C'est ça l'idée. Alors, est-ce qu'on électrifie ? Alors voilà la courbe de consommation électrique française depuis 2004. En haut, vous avez les données en terawatt-heure, et en bas, c'est ça doit être la puissance, la pointe de consommation en gigawatt. Bien, ce que vous voyez, c'est qu'après une montée, donc on était à 450 en 2004, bon, vous observez qu'on est toujours à 450, mais ça n'a pas été plat, ça a été une montée, et on a une consommation en France pendant une vingtaine d'années, à peu près, autour de 480 TWh. Et à peu près depuis 2017, hein, je crois que c'est ça ici, 2017, alors avec des variations qui sont liées aux événements en particulier géopolitiques, etc., eh bien, ça tombe. Voilà, donc nous ne sommes pas dans une phase d'électrification du tout massive. Et déjà, d'ailleurs, maintenant, nous sommes déjà assez loin des courbes, des différents scénarios. Et là, je n'accuse personne, puisque nous-mêmes, à l'Académie des sciences, nous avons évoqué des scénarios de cet ordre. Or, nous ne sommes pas dans cette dynamique-là. C'est la même chose hein, pour la pointe de consommation. Alors, ici, je ne sais pas ce qui s'est passé en 2012, mais on peut arriver à des puissances d'une centaine de gigawatts. Mais vous voyez, ici, c'est en moyenne autour de 90 gigawatts. Voilà, ici, c'est même les pointes sont plus faibles. Bon, voilà, on est dans cet état-là. Alors, on a je vous montre des choses plus récentes. Hein. 2000, je crois que c'est en juillet 2025, comme tous les mois de juillet, RTE publie un bilan semestriel. Et vous le voyez ici, eh bien, 2025 n'est pas non plus le départ d'une montée d'électrification, puisque, vous voyez, la courbe bleue, c'est 2025, elle s'aligne totalement avec 2024 et 2023, et elle est ici... elle est ici très en dessous de... Voilà, de l'historique 2014-2019. Et si vous regardez à 6 mois, le premier semestre 2025, on a consommé 230 TWh. Et en 2024, on avait consommé, pour le premier semestre, hein, je compare des choses comparables, 230 TWh. Donc, voilà, on n'est pas dans cette dynamique. Oui, je vais revenir à tout ça, hein, mais... Il y a des tas de raisons pour cela. Je vais rentrer un peu dans les détails juste après. Ici, c'est pas l'ordre n'a pas beaucoup d'importance. C'est une somme de causes. L'amélioration de l'efficacité énergétique hein, continuelle des convertisseurs d'énergie. Le prix d'électricité à la hausse suffisamment élevé pour contraindre les ménages et les industriels à faire attention à leur demande d'électricité, hein, donc des comportements de sobriété, des comportements d'économie d'énergie, etc. etc. Comme vous le verrez, une désindustrialisation qui continue et des délocalisations industrielles. Et puis, quelque chose dont on parle relativement peu, parce qu'on évoque toujours ces questions économiques en particulier, ou sociales, mais on s'est quand même fait croire que toutes les technologies étaient disponibles pour électrifier tout ce qui pouvait être électrifié à des coûts raisonnables et en très peu de temps. Or ça, c'est faux. On est encore, dans certains cas, très loin. Dans certains secteurs, on a avancé. Hein, sans doute le plus avancé, c'est le véhicule électrique, avec les difficultés que vous verrez, mais il y a des tas de technologies qui sont encore trop chères et pas suffisamment avancées, et ça contribue aussi à cette difficulté-là, ce qui, évidemment, appelle à travailler encore plus aux technologies. Voilà, donc ça, j'ai montré ça. Et juste pour vous montrer que... Donc, ça, c'est ce que je vous ai montré, c'est la consommation. En termes de production, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, ici, au premier semestre 2024, ça, c'est toujours le même document. Hein. 271 au premier semestre 2025, donc c'est la même chose. La production, mais comme vous le verrez, elle est, et comme j'ai déjà dit la dernière fois, elle est très largement supérieure à la consommation. D'ailleurs, on le voit ici, j'ai dit 230 TWh hein, de consommation. Ici, on est à 270 de production, donc il y a 40 TWh de plus. Qu'est-ce qu'on voit ? Tout ça, c'est pareil, mais il y a des choses qui bougent. Le nucléaire augmente. Le solaire augmente et puis ça diminue du côté de la production hydraulique et de l'éolien. Voilà, et donc j'ai dit que la différence, hein, 40 TWh, on en exporte 37. C'est le deuxième record après 2024. Et juste ici pour montrer nos principaux acheteurs, c'est l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Bon, j'avais dit ça la dernière fois. Oui, j'ai évoqué le prix de l'électricité. Alors ici, c'est la valeur du prix spot hebdomadaire moyen de l'électricité. Et on est... Alors, voilà, en violet foncé, voilà, 67 euros par mégawattheure. Et comme vous le voyez, c'est supérieur au prix moyen 2024, où on était à 47, et c'est inférieur à 2023, où on avait une moyenne de 111, toujours hein, sur les semestres. Donc, vous voyez, les prix de l'électricité varient énormément, mais ils peuvent descendre jusqu'à 47, c'était le cas de 2024. Ils peuvent être haut en 2023, mais ça pour des raisons que vous savez. Hein, enfin, c'est les difficultés de la production électrique liées à plusieurs choses. Le prix de l'électricité dans le marché de l'électricité, hein, j'y reviendrai. Le nucléaire qui n'avait pas encore retrouvé toute son efficacité. Bon, voilà, donc 67 euros, c'est beaucoup plus que 47. Donc il y a eu une augmentation du prix de l'électricité en un an, et ceci évidemment ne favorise pas l'électrification. Alors, une fois qu'on a dit ça, on regarde plus largement. Effectivement, le prix de l'électricité en France est élevé. Mais il l'est moins qu'ailleurs. Et à part l'Espagne, vous voyez, avec un prix moyen de 62 euros par mégawattheure, hein, toujours hein, sur la même période, vous voyez que les autres pays, l'Allemagne est à 91, les Pays-Bas à 90, la Grande-Bretagne à 105, ici, je ne sais pas ce que c'est, 80 et quelques. Donc, voilà, il faut donc relativiser les choses d'une certaine façon. Certes, nous avons un prix de l'électricité, mais j'y reviendrai, qui est encore très élevé, mais il y a un certain avantage compétitif au niveau de l'Europe de notre électricité. Autre caractéristique. Dans une situation d'excès de production électrique, on se trouve dans des situations où arrive sur le marché un trop gros excès d'électricité et cette électricité se vend à des prix à ce moment-là très bas et ils peuvent être négatifs. C'est une des caractéristiques, c'est une nouvelle caractéristique du marché de l'électricité aujourd'hui et qui est lié en partie par des excès de production lorsque notamment les énergies renouvelables, solaire et éolien, beaucoup de vent, beaucoup de soleil, produisent beaucoup d'électricité. Et comme vous le voyez, prix négatifs sont le nombre de périodes avec des prix négatifs augmente très, très sérieusement. Vous voyez, c'était 53 heures en 2023, 235 en 2024 et 363 heures en 2025. Et c'est ce que vous voyez en bleu ici, entre les différentes années. Bon, ceci montre simplement que les horaires de grandes, les horaires où vous avez des prix négatifs, les mois où vous avez des prix négatifs, c'est surtout les mois d'été. Évidemment, c'est là où où il y a des excès de solaire en particulier. Voilà, donc tout ça montre une situation dans laquelle les prix sont élevés en France, sont très volatiles, avec un marché de l'électricité un peu compliqué, qui, à mon avis, ne favorise pas la course vers l'électrification des usages. Alors, est-ce que c'est typiquement français, cette affaire-là ? Non. C'est partout. On veut électrifier partout, mais on n'électrifie pas. On n'électrifie pas avec la dynamique qui est prévue dans les scénarios. Et vous voyez, ça, c'est tous les pays représentés, Espagne, Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni. Et donc, dans tous ces pays-là, la consommation, la demande électrique baisse. Vous voyez, partout. Donc, il y a un véritable frein à la mobilisation de la demande électrique. Et ça, vous imaginez bien que c'est un problème, hein, parce que s'il n'y a pas de demande, eh bien, les producteurs de ces convertisseurs d'énergie électrique sont en difficulté. Ils ne peuvent pas mettre sur le marché des quantités massives d'objets électriques, et donc on n'électrifie pas. Donc ici, je voudrais vous montrer les difficultés. Alors tout ça est bien dommage, hein, bien sûr, parce qu'on est d'accord, il faut électrifier. Je vais évoquer quelques secteurs. Hydrogène vert, les procédés industriels, les véhicules électriques, le chauffage des bâtiments et un peu les carburants de synthèse. Alors, du côté de l'hydrogène, alors je parle que de l'hydrogène vert, hein, quand on regarde un peu le secteur, on s'aperçoit que, au fond, dans les dernières années, il n'y a pas eu de vraies révolutions, de vrais changements dans le coût de l'hydrogène vert et dans les rendements des électrolyseurs, etc. etc. Bon, il faut encore y travailler. Ça fait longtemps qu'on y travaille, mais il faut encore y travailler. Donc, la demande, comme je l'ai dit, en hydrogène est faible. Enfin, elle n'explose pas, en tout cas. Et donc, les producteurs d'électrolyseurs installent insuffisamment de capacité d'électrolyseurs. Je crois qu'on est à peu près à 50 mégawatts, hein, c'est faible, d'électrolyseurs pour transformer de l'eau en hydrogène en 2025. La cible, c'était 6,5 gigawatts, ça doit faire à peu près, il faut multiplier par plus de 100 pour y arriver en 5 ans. Et dans la PPE, c'est l'objectif 8 gigawatts en 2035. Voilà, on est très loin. Et il se passe tout un tas de choses. Vous voyez, par exemple, je prends ici quelques éléments, quelques informations récentes. Hein. McPhee, qui est une gigafactory d'électrolyseurs, hein, inaugurée en juin 2024, liquidation judiciaire en mai 2025, rachetée par John Cockerill en juillet 2025. La stratégie française de l'hydrogène est en réévaluation à l'heure actuelle, et avec une priorité qui est donnée à l'introduction de l'hydrogène vert dans l'industrie plutôt qu'au transport hydrogène. Airbus a suspendu, je crois, la mise au point de son avion à hydrogène. Stellantis a mis fin, vous voyez, en juillet 2025, tout ça c'est il n'y a pas très longtemps, hein, à son programme de véhicules utilitaires à hydrogène. Voilà, et le coût de l'hydrogène, comme vous vous souvenez de la dernière fois, l'hydrogène plus le CO2, c'est ça qui fait les carburants de synthèse. Si le prix de l'hydrogène est cher, celui des carburants de synthèse est encore plus cher. Et aujourd'hui, un kérosène synthétique est voilà, 5 à 8 fois plus cher que le kérosène fossile. Bon, j'en profite pour vous donner un certain nombre d'éléments bibliographiques hein, qui sortent régulièrement. Ça, c'est par exemple un document qui sort tous les ans de l'Agence internationale de l'énergie. Ça s'appelle Global Hydrogen Review. Alors, c'est 2025, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Et voilà ce que dit l'AIE, hein, l'Agence internationale de l'énergie. Le portefeuille de projets en cours a chuté en un an. En termes de projet, il y avait le projet de produire 37 millions de tonnes par an en 2030, et c'était 49 millions. Tout ça, c'est des projets, hein, ce n'est pas ce qui est produit. Hein. Voilà, donc la production potentielle est en baisse à la fois pour les projets par électrolyseur et pour ceux utilisant des énergies fossiles avec captage et stockage du carbone, même si les projets par électrolyse représentent à eux seuls 80% de la baisse enregistrée. Voilà, ça c'est récent, vous voyez, septembre 2025. Donc, grosse difficulté sur ce secteur. L'acier vert. Alors, je vous rappelle, l'acier, c'est presque 10% des émissions mondiales de CO2. Donc, en effet, c'est un secteur qui est très scruté et sur lequel il faut en effet travailler pour trouver des alternatives aux procédés actuels de production de l'acier. Alors ici, c'est très simple, c'est plus compliqué que ça, mais c'est juste pour vous montrer que de l'acier, c'est du fer métallique qui vient des oxydes de fer de la nature. Et ces oxydes donc nécessitent d'être réduits. Et ça se fait par un procédé qui s'appelle un procédé charbon, où en fait ce charbon sert à produire du monoxyde de carbone, et le monoxyde de carbone est l'agent réducteur des oxydes de fer. Voilà, des équations chimiques pas trop compliquées. Évidemment, vous voyez que tout ça s'accompagne d'une production importante de CO2, et une tonne d'acier, c'est à peu près 2 tonnes de CO2 produites. Donc c'est vraiment un gros émetteur de CO2, c'est ce que je disais. Alors, les alternatives, du point de vue chimique, c'est quoi ? C'est d'utiliser un autre réducteur que le monoxyde de carbone, et donc c'est le procédé à hydrogène. Si l'hydrogène est un réducteur, et donc vous pouvez imaginer un procédé, et c'est d'ailleurs des choses qui sont travaillées, la transformation de l'oxyde de fer en fer métallique, par réaction avec l'hydrogène. Alors évidemment, il faut que ce soit de l'hydrogène vert, dont on vient de dire qu'il est coûteux et difficile à utiliser. Vous avez une autre stratégie moins mature, je dirais, d'une certaine façon, c'est l'électrolyse directe de l'oxyde de fer. Voilà. Là, avec ces stratégies-là, vous pouvez arriver pour la production d'une tonne d'acier à l'équivalent de 0,2 tonnes de CO2. Donc là, c'est très intéressant, hein, c'est un facteur 10 de réduction des émissions de CO2. Donc tout ça montre qu'il est intéressant de travailler à ces technologies. Bon, la réalité, c'est que ça non plus, ça n'avance pas beaucoup. Bon, d'abord, d'une manière générale, hein, notre industrie sidérurgique est en très grande difficulté. Bon, ici, vous voyez le nombre de hauts fourneaux en France. Bon, on part de loin, mais voilà, ça continue à diminuer. Vous voyez ici le nombre d'emplois dans l'acier en Europe, hein, vous voyez, qui est en diminution. Vous voyez évidemment un compétiteur sérieux qui est la Chine. Alors, comme vous le savez, ce n'est pas uniquement dans ce secteur-là. Hein. Et vous voyez que depuis très peu de temps, il y a une montée très sérieuse des exportations d'acier chinois dans le monde. Et vous voyez ici Alors, je crois que c'est l'Union européenne. Hein. Nous étions jusqu'en 2016-2017. Je ne sais pas si l'année 2017 a une valeur particulière, mais jusqu'en 2017, nous étions en Europe exportateurs d'acier. Et vous voyez que depuis cette période-là, nous sommes importateurs d'acier. Bon, donc ça, c'est des difficultés de la sidérurgie. Mais en plus, dans ce contexte-là, quand vous voulez introduire des nouvelles technologies, celles dont je viens de parler, électrolyse ou hydrogénation, qui demandent de nouvelles infrastructures, de nouvelles capacités, des coûts supplémentaires, etc., eh bien, vous vous trouvez en difficulté et c'est bien ce qui se passe. ArcelorMittal, me semble-t-il, a suspendu son projet d'acier vert hein, à Fos-sur-Mer et Dunkerque. C'est dommage parce que ces endroits-là sont des gros centres d'émissions de CO2. Il faut y travailler pour l'industrie. Alors, c'est quoi les problèmes? C'est évidemment le prix de l'énergie. Tout ça, il y a besoin d'énergie. C'est la surproduction de l'acier chinois qui se déverse en Europe. C'est les charges fiscales. C'est la demande intérieure faible. Hein. Bien sûr, hein, si vous avez, comme vous le verrez, une industrie automobile qui est moins active, si vous avez le secteur de la construction qui est en baisse, et bien tout ça demande de moins en moins d'acier. Et donc, ça va en parallèle. Et puis vous avez plus récemment hein, les barrières douanières américaines. Voilà, alors tout ça se traduit par un peu partout en Europe par des suppressions d'emplois. Hein. ThyssenKrupp, hein, c'est une grosse entreprise sidérurgique qui est elle aussi en difficulté. Il n'y a pas que la France. Alors ici, il y avait un projet intéressant dans l'Union européenne, notamment en Suède, l'entreprise Stegra. Vous voyez qu'il était parti pour faire de l'acier vert, donc réduction directe par l'hydrogène, avec un objectif de 2,7 millions de tonnes en 2027, puis 4,5 millions de tonnes par an. Voilà. Alors, des entreprises comme ça, vous voyez, le PDG d'ArcelorMittal en mai 2025, c'est il n'y a pas longtemps, la rentabilité de cette transition n'est pas suffisante. L'hydrogène vert n'est pas encore une source d'énergie viable. La réduction directe du fer n'est pas compétitive. Voilà ce que affirme le secteur sidérurgique. Et Stegra, qui veut être le pionnier de la production d'acier vert avec de l'hydrogène dans le nord de la Suède, cherche des fonds pour éviter la faillite. Vous voyez, les choses se passent très très vite. Ça, c'était en octobre 2025. Et voilà, de quoi faire craindre un nouvel épisode Northvolt, j'y reviendrai. Donc, hydrogène, difficile, acier, difficile, mobilité. Alors, mobilité, il y a, avant d'arriver aux véhicules électriques, hein, parce que le thermique, il n'est pas vert, mais il faut quand même constater une difficulté du secteur automobile. Alors il y a tout un tas de conditions, enfin tout ce contexte de l'interdiction des ventes des véhicules thermiques en 2035, extension ou pas des zones à faible émission, la concurrence, les amendes pour les constructeurs. Donc l'Union européenne a établi des réglementations en termes d'émissions pour les constructeurs automobiles. Au-dessus d'une certaine valeur, il y a des amendes. Et la valeur ici de 81 grammes par kilomètre, c'est pour 2025. Et tout ça peut coûter cher à l'industrie automobile, en effet. Et c'est le cas aujourd'hui, hein, s'ils ne descendent pas en dessous de cette valeur. Et tout ça met beaucoup de complexité dans les politiques énergétiques. Hein. Je cite un texte de la Commission européenne de mars 2025, qui est le plan d'action pour l'avenir de l'industrie automobile, que la Commission elle-même qualifie en danger de mort, et donc qui est amenée à assouplir les règles sur les émissions de gaz à effet de serre en disant « nous devons écouter les voix qui demandent plus de pragmatisme ». Donc tout ça est très compliqué. Et tout ça se traduit par un marché automobile en difficulté, des fermetures d'usines, des plans sociaux, des pertes d'emplois, y compris dans les très grosses boîtes, hein, Michelin, Stellantis, Volkswagen. Beaucoup de problèmes dans les équipementiers automobiles, Valeo, Forvia. Forvia annonce 10 000 emplois supprimés en 5 ans. Bosch, qui est le numéro 1 mondial des équipementiers automobiles, c'est suppression de 13 000 emplois. Enfin, voilà, la situation est extrêmement difficile. Vous voyez, ici, j'essaye d'avoir les informations les plus récentes, mais en 2025, donc ce qui se passe actuellement, vraiment, en termes de voitures, alors prenons la somme des véhicules légers, hein, voitures particulières et véhicules utilitaires légers, ces deux parties sont, enfin celle-ci est la somme des deux, mais voilà, une baisse de 7,67% du marché automobile, si on compare dans la même période par rapport à 2024. Alors, en ce qui concerne le véhicule électrique, où est-ce qu'on en est ? C'est le secteur qui paraît le plus favorable. On sait faire des batteries, peut-être pas en France, mais on sait faire des batteries électriques. On a tous vu, certains d'entre vous ont des véhicules électriques. Voilà, tout ça est bien enclenché. Mais à nouveau, on est en difficulté. En 2024, il y a eu une baisse des immatriculations de véhicules électriques. La part de marché, certes, 16%, c'est intéressant, mais certainement insuffisant. On a une compétition avec... Enfin, on a, je peux le dire, pas encore réussi à installer un secteur industriel très fort de production de batteries à l'échelle française et européenne. Et donc, on a tout un tas de conséquences. Plusieurs projets de gigafactory de batteries ont été annulés ou suspendus en Europe. Et puis, il y a le cas exemplaire, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la faillite de Northvolt en 2024. Northvolt, en effet, c'est le plus exemplaire parce que c'était le projet européen le plus abouti en matière de production de batteries, avec un investissement colossal, hein, de 14 milliards d'euros, et avec des actionnaires prestigieux, Volkswagen, BMW, etc. Et voilà, cette entreprise, alors à la fois pour des raisons techniques et de coûts, sans doute, ne sont pas arrivés à faire des batteries fiables. Les clients se sont désengagés, BMW, Volkswagen, et ça a été la faillite. Tout ça est assez inquiétant, mais voilà, je voulais vous montrer la réalité. La réalité, c'est que sans doute le coût du véhicule électrique est encore trop élevé. Alors à nouveau, le prix de l'électricité, hein, qui impacte sur l'utilisation des véhicules électriques. Les bornes de recharge, il y en a de plus en plus, hein, mais sont sûrement encore insuffisantes pour mobiliser les utilisateurs. Il y a des réglementations européennes, je ne veux pas rentrer dans le détail. L'instabilité des aides à l'achat aussi. En permanence, bonus écologique, leasing social, toutes ces choses-là changent. L'utilisateur ne sait plus très bien où est-ce qu'il en est. Il y a des nouvelles taxes. Par exemple, la loi de finances 2025 a introduit un malus au poids. Et puis surtout, il y a la concurrence chinoise qui, là aussi, après avoir déversé l'acier en Europe, déverse ses voitures électriques. Mais elle ne les déverse pas tant que ça parce que, par ailleurs, il y a des taxes à l'importation qui fait que ça reste encore cher. Donc, grande difficulté. Et là encore, quand vous interviewez les responsables, hein, de ce secteur industriel, voilà ce que vous entendez. Ici, c'est le patron de Stellantis. Le marché automobile européen est en chute depuis maintenant 5 ans. Au rythme actuel, le marché pourrait être plus que divisé par deux d'ici à 2035. Luca de Meo, ancien directeur général de Renault, le marché n'achète pas ce que l'Europe veut que nous lui vendions. Remplacer la totalité des volumes actuels par de l'électrique, dans ces conditions, nous n'y arriverons pas. Et Stellantis aussi, c'est très clair, nous sommes à quelques mois d'un drame. Voilà, alors bon, tout ça est peut-être exagéré, mais enfin, ils en savent plus que nous, sans doute, sur la question de l'état de leur secteur. Donc tout ça est quand même très inquiétant. Bon, ça c'est la même chose. La chute, hein, ici c'est la chute des immatriculations de ventes de voitures particulières. Vous voyez, on était presque à 1,2 million par an ici, on est à 840 000. Et cette chute, on le voit ici, n'est pas que le véhicule thermique. Hein, je l'ai déjà dit. Hein. En 2024, le véhicule électrique ici, ou le véhicule hybride rechargeable, est en baisse et ça continue en 2025 très très sérieusement. Voilà, donc à nouveau, électrification de la mobilité en très grande difficulté. Tout ça est cohérent hein, avec le fait que nos fameux scénarios qui prévoyaient des montées massives se trouvent confrontés à une réelle demande électrique qui ne démarre pas, qui baisse même. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Il y a des choses très curieuses aussi. On voit des baromètres de ce type-là. Vous voyez ici, quand vous posez la question, c'est pas que la France, hein, en France, en Allemagne et en Royaume-Uni, êtes-vous favorable au développement du véhicule électrique ? Vous voyez, en rouge, c'est plutôt pas et pas du tout. Entre 2014 et 2024, ça augmente. Il y a vraiment un problème. Et c'est aussi vrai en Allemagne qu'en Angleterre. Et puis quand vous posez ce genre de questions, les batteries des véhicules électriques sont mauvaises pour l'environnement, c'est la moyenne sur les trois pays. Hein. Vous voyez que ça monte, donc de plus en plus de gens pensent que c'est mauvais pour l'environnement. De plus en plus de gens pensent que les batteries sont dangereuses. De moins en moins de gens pensent que le véhicule électrique permet de diminuer les nuisances sonores dans les villes. Que de moins en moins de gens pensent que le véhicule électrique permet d'améliorer localement la qualité de l'air ou les émissions de CO2. Voilà, on est quand même dans une ambiance tout à fait étonnante. Alors tout ça ne favorise pas. Hein, il y a quelque chose qui manque hein, dans notre stratégie. Oui, une étude du cabinet Deloitte, juin 2025. Seuls 9% des Français envisagent l'achat d'un véhicule électrique en 2025. Voilà. Et les modèles thermiques gagnent en popularité. C'est quand même terrible de voir ça, mais c'est la réalité. Et pour terminer là-dessus, là aussi, hein, dans mon souci de vous faire lire des choses, la Commission des affaires économiques du Sénat, vous voyez, le 15 octobre 2025, hein, c'était il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, sort un rapport qui s'appelle « Contre un crash programmé, mesures d'urgence pour l'industrie automobile française ». Voilà, bon, je ne recommande pas tous ces chiffres, mais c'est un constat qui est fait partout. Et la Commission des affaires économiques du Sénat se penche sur ce problème. Hausse des prix des véhicules neufs, baisse de la part de la France dans la production automobile européenne, alors que nous sommes hein, un des grands pays de production automobile. Voilà. Contraction du marché et concurrence de la Chine. Alors, je ne vous demande pas de lire tout ça. Peut-être, d'ailleurs, certainement, vous ne le voyez pas, mais vous pouvez aller regarder ce document. Mais c'est juste pour vous dire qu'on en arrive, au fond, à des choses qui posent question, hein, comme recommandation à moyen terme, sortir du tout électrique. Hein, vous voyez, donc. Voilà, alors on peut en débattre, chacun pense ce qu'il veut là-dessus, mais voilà que ce que dit cette commission, mais en même temps des choses aussi tout à fait raisonnables contre lesquelles je ne me prononcerai pas, puisque évidemment soutenir et amplifier l'effort de la recherche et du développement, je suis parfaitement en phase. En effet, oui, c'est ça aussi. Hein, c'est sortons de cette idée que toutes les technologies sont là, à bas coût, très performantes, etc. Et que s'il y a un problème, c'est que la faute de je ne sais quel lobby, ou la faute de l'économie, ou la faute du marché de l'électricité, c'est aussi le fait qu'il y a des technos à travailler encore. Bon, et puis après, des choses aussi tout à fait raisonnables, regagner de la compétitivité, assurer la souveraineté en matière de véhicules électriques, enfin bon, tout ça est tout à fait logique. Mais enfin, voilà, c'est pour vous dire la difficulté. Ben oui, c'est la même chose pour les pompes à chaleur. PAC RO baisse de 40% en 2024 par rapport à 2023. PAC géothermique baisse de 23% en 2024 par rapport à 2023. PAC ER baisse de 12%. Chaudière à gaz, ça augmente. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, en bleu, c'est la baisse des ventes de PAC, pompe à chaleur. Et ici, après une descente, il y a une remontée. Alors, c'est peut-être conjoncturel, mais néanmoins, tout ça va dans ce sens où il y a une grosse difficulté d'électrification. Bon, les pompes à chaleur coûtent plus cher à l'achat, en fonctionnement moins. Et en termes d'émissions de CO2, c'est quand même beaucoup mieux. Enfin, le résultat, c'est que probablement, le premier élément, le coût à l'achat, est déterminant dans l'électrification. Industrie, voilà la part de l'industrie dans le PIB français. Il y a eu un petit plateau ici, je ne sais pas à qui on peut l'attribuer, mais... Certains se l'attribuent. Mais bon, globalement, ça diminue. Donc, l'industrie pesant moins, elle risque sans doute de ne pas peser plus pour l'électrification. Alors, tout ça, c'est un peu la même chose. Hein, donc... Baisse de la production industrielle, balance commerciale déficitaire, fermeture d'entreprises, destruction d'emplois. Vous voyez ici les défaillances d'entreprises au plus haut niveau depuis 15 ans, 66 000 au-dessus de ce qu'on faisait en 2010-2015. Alors, prix de l'énergie... Toujours les mêmes raisons, hein. Concurrence des surcapacités chinoises, instabilité fiscale, demande intérieure faible, hausse des droits de douane. Bon. Énormément de secteurs sont touchés, métallurgie, chimie, automobile. Voilà. Enfin, vous pouvez regarder dans la presse en permanence, en particulier dans le domaine de la chimie, toutes les entreprises qui ont des difficultés et qui se traduisent soit par des fermetures, soit par des délocalisations, soit les deux. Voilà. Et donc ça, voilà. Donc industrialisation, électrification de l'industrie. Bah vous avez ici la tendance. Ça diminue, ça n'augmente pas. Ça c'est une note du haut commissaire. C'est correct ? Voilà, et c'était il n'y a pas longtemps, hein, 10 juillet. Voilà, alors je termine sur une considération sur le prix de l'électricité. Donc, ici, comme je l'ai dit, on peut regarder ça d'abord, la moyenne annuelle des prix spot horaires. Était autour, vous voyez, de moins de 50. 2019, bon, il y a eu la 2022, hein, ça c'est la reprise post-Covid, la faiblesse du nucléaire, la sécheresse, le prix du gaz élevé
à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, etc. Donc ça c'est monté très haut. Hein. Et puis c'est redescendu. Mais ici, comme vous le voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est autour de 60 et quelques euros par mégawattheure. C'est mieux que tous les autres pays européens, on le voit aussi dans cette courbe, à part l'Espagne qui est à peu près comparable. Donc, le prix de l'électricité ici, pour le moment, je ne l'ai comparé que à l'Europe, donc c'est assez favorable pour la France. Mais quand vous le comparez maintenant à la Chine, où vous comparez l'Europe à la Chine et aux États-Unis, ben voilà les courbes que je vais commenter. Ici, c'est le rapport des prix de détail pour l'industrie. Alors, en bleu, ici, c'est prix de détail pour l'industrie européen versus les États-Unis. Et vous voyez qu'on est pas loin on est au-dessus d'un facteur 2. Donc, les prix européens sont deux fois plus chers que les Américains. Et deux fois plus cher également, si on regarde la courbe rouge, c'est le rapport Union européenne. Oui, EU, c'est pas États-Unis, c'est European Union et Chine. Voilà, donc on a un facteur 2. Eh bien, je crois que c'est un élément majeur aujourd'hui. Enfin, je pense que tout le monde a compris qu'il y avait une vraie question du prix de l'électricité. Il y a deux choses. Il y a le prix de l'électricité et il y a les technologies. Donc il y a un problème économique, il y a un problème technologique, il faut travailler sur les deux. Moi, je ne maîtrise à peu près que le problème technologique, je ne suis pas un économiste, mais je mets sur la table le fait que tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a un problème avec le prix de l'électricité et que c'est ça qui peut en partie bloquer le processus d'électrification que nous souhaitons tous. Alors pourquoi ce prix est élevé? Nous importons du gaz qui est de plus en plus cher. Il y avait le gaz russe pour l'Europe. Il y en a moins, il n'y en a pas plus du tout, hein, on continue. L'Europe a importé du gaz russe. Mais il y a surtout du gaz naturel liquéfié qui vient d'ailleurs, donc qui coûte beaucoup plus cher puisqu'il faut le liquéfier, le transporter, le gazéifier à nouveau, enfin, etc. Donc ça coûte plus cher. Il y a un marché de l'électricité européen qui fait que le prix de l'électricité est déterminé et dicté par le prix du gaz. J'avais invité il y a deux ans Jacques Percebois pour nous parler de cette problématique et qui vous a expliqué pourquoi c'était ainsi. Mais si le gaz est cher, le prix de l'électricité est cher. Ça paraît curieux pour un pays comme la France, mais c'est comme ça. Peut-être que nous aurons Vincent nous en dira plus. En ce qui concerne la France, nous avons donc, je l'ai dit la dernière fois, une grosse production nucléaire. Et ce nucléaire a aussi vu ses coûts augmenter, hein, pour tout un tas de raisons, des nouvelles normes de sécurité, des arrêts, des modulations plus fréquentes pour équilibrer le réseau, de la rénovation, de la prolongation des réacteurs, hein, ce qu'on appelle le grand carénage. Donc tout ça introduit des coûts supplémentaires. Je terminerai un peu plus en détail cette heure en parlant de l'augmentation des taxes. Il y a le coût de l'acheminement de l'électricité, hein, de plus en plus coûteux, avec des lignes électriques aussi bien haute tension pour la connexion avec les pays voisins que moyenne et basse tension pour la distribution. Et donc sur les taxes, alors c'est quoi les taxes ? La facture d'électricité, pour simplifier, c'est trois choses qui pèsent à peu près le même poids. C'est d'une part, c'est un tiers de fourniture, c'est la production, un tiers d'acheminement, c'est le transfert de cette électricité du site de production à ceux qui l'utilisent, Et puis des taxes. Alors c'est assez compliqué, les taxes ont varié dans le temps récent en termes d'appellation en particulier. Et donc la taxe aujourd'hui dont il faut parler, c'est l'assise, ce qu'on appelle l'assise sur l'électricité. Anciennement CSPE. Alors cette taxe-là, alors c'est un impôt qui sert à plusieurs choses, en particulier à financer la politique de soutien aux énergies renouvelables. Alors je le redirai plus tard, mais comme c'est un impôt et que ce ne sont pas les utilisateurs de l'électricité c'est un impôt dans le sens où ce qui est prélevé est remis dans le budget de l'État. Donc c'est le contribuable qui contribue à cette politique. Il y a une péréquation tarifaire pour les zones qui sont non interconnectées, la Corse, les départements d'outre-mer. Il y a des dispositifs sociaux hein, pour les situations de précarité énergétique, etc. Puis il y a d'autres taxes, la TVA, etc. Enfin, tout ça compte pour un tiers. Donc un tiers du prix de l'électricité, ce sont les taxes. Bon, évidemment, il y a beaucoup de débats là-dessus, sur est-ce que c'est là qu'on peut jouer pour diminuer le prix de l'électricité et favoriser un accès à l'électricité. Alors évidemment, quand vous diminuez des taxes dans un pays qui cherche à les augmenter pour équilibrer des budgets, c'est difficile. Enfin, voilà ce qui s'est passé. Quand vous regardez l'évolution du montant de l'assise sur l'électricité depuis voilà, le début des années 2000, voilà, c'est une augmentation tout à fait importante. Donc il y a eu une augmentation des taxes. Mais le plus étonnant, moi j'ai découvert ça récemment, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que vous regardez à gauche, ici c'est les taxes exprimées en euros par mégawattheure. Vous observez tout de suite que si l'essence et le gazole sont les plus taxés, l'électricité, alors hors bouclier tarifaire, oui, parce que ça, c'est le bouclier tarifaire, hein, le fait qu'il n'y avait pas de taxe en 2022. Hors bouclier tarifaire, l'électricité est plus taxée que le fuel et encore plus que le gaz naturel. Je savais que c'était le cas, mais pas autant. Mais ce qui est plus intéressant, c'est pour un pays comme la France, alors ça, c'est Jacques Percebois qui m'a passé ces données, c'est à droite, pardon, si vous calculez le prix, les taxes rapportées aux émissions de CO2, donc vous voyez ici en centimes par kilogramme de CO2, là c'est un facteur, je ne sais pas combien, 30 ou 40 fois plus. Donc si on prenait comme critère les émissions de CO2, c'est évidemment le contraire qu'il faudrait faire, hein, bien sûr. C'est taxer plus cela que l'électricité dans un pays comme la France où l'électricité est décarbonée. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de débats sur... Enfin, ça, c'est de l'ordre des politiques, hein, savoir si on peut diminuer la taxe sur l'électricité. Évidemment, c'est moins de ressources pour l'État qu'il faut compenser ailleurs. Et en même temps, on augmente trop massivement les taxes sur le gaz, ça peut faire des gilets jaunes, puisqu'on continue à avoir beaucoup de chaudières à gaz. Bon, tout ça, c'est de la politique, c'est pas mon sujet. Chacun d'entre vous peut avoir ses idées là-dessus. Je voulais vous donner ces informations. Et évidemment, ça me permet d'enchaîner sur l'exposé suivant, parce que, évidemment, nous sommes dans un pays où il y a quelque chose de très, très, très particulier dans la production électrique, c'est notre industrie électronucléaire. Et donc là aussi, taxes, certes, mais aussi technologie, je l'ai dit, mais aussi production électrique la moins coûteuse possible. Et quand on dépend autant d'une source d'énergie électrique que le nucléaire, dans un pays comme la France, évidemment, il y a un enjeu majeur à l'industrie électronucléaire de produire cette électricité au coût le plus bas et de façon la plus efficace. Et donc, je suis très heureux de passer la parole à Vincent Berger. Vincent Berger est un physicien, je crois physique des semi-conducteurs, physique de plein de choses, optique. Voilà. Mais en plus, une personnalité qui a pris des responsabilités, je dirais, de conseiller scientifique. Alors, plein d'engagements. Il a été président de l'université d'Hydrault, début des années 2000. Je crois que c'est là qu'on s'est connus. Je présidais le conseil scientifique de la ville de Paris à cette époque. Et c'est là que nous nous rencontrions parfois. Et ensuite, Vincent a été conseiller enseignement supérieur et recherche de François Hollande. Et puis, il est parti au CEA en 2015 pour diriger... Enfin, ce qu'on, alors peut-être ça n'existe plus sous ce nom-là, Direction de la Recherche Fondamentale. Et depuis 2023, il est maintenant haut-commissaire à l'énergie atomique et qui lui donne une voix importante dans la réflexion sur la transition énergétique et plus spécifiquement sur l'énergie nucléaire. Je suis très heureux que tu aies accepté de venir. Je te passe la parole.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.